Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série qui est de la plus haute importance concernant la prière. Aujourd'hui, le thème sera que le manque de prière est carrément considéré comme un péché. La Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser même de prier pour vous. » Ne pas prier est donc un grave péché. Pour le pécheur, c'est le signe de sa réjection du Sauveur. On rejette notre Sauveur, on le méprise si nous ne prions pas. Et pour le chrétien, c'est l'indice d'un état de déchéance spirituelle. Donc, ne pas prier, c'est faire preuve d'incrédulité. L'absence de prière dans une vie peut entraîner à tous les pires péchés, de même que la convoitise engendre bien souvent l'adultère. Les plus vils péchés ont leur source dans un cœur d'où la prière est absente, alors que, par le moyen de la prière, la tentation aurait pu être vaincue. Ne pas prier, c'est faire preuve d'inimitié contre Dieu, c'est-à-dire se rendre coupable à ses yeux. Je reconnais que toutes les faillites, et je parle de ma vie, ont été dues à un manque de prière. Si plus d'âmes n'ont pas été sauvées par mon ministère, ce n'est pas faute de prédication, mais pas du tout, mais faute d'avoir suffisamment prié. Ce n'est pas le tout, simplement de prêcher. On peut se gargariser son égoïsme avec ça. Mais prier, il faut drôlement s'humilier. La perte de ma joie en certaines circonstances de ma vie, mes indécisions, mes manquements, mes chutes, tout peut être attribué à un manque de prière. Oui, quel horrible péché que de négliger de prier. Si tout va mal dans nos églises, croyez-moi, c'est qu'il y a tout simplement manque de la prière qui est vraie et sincère, surtout sincère. Ce qui manque à nos prédicateurs, c'est encore et toujours la prière. Pour tout péché, toute faiblesse, tout manquement, Dieu dispose d'un sur-remède. Si seulement nous savons prier comme il convient, il est inexprimablement triste de constater que les désordres dans la vie de famille, le refus de se pardonner mutuellement, la rébellion ou l'indifférence envers la parole de Dieu, l'amour du péché, quel qu'il soit, va entraver notre désir, notre vie de prière. Mais le pire de tous les maux, c'est de ne pas prier du tout. Et c'est le cas pour beaucoup de gens. Il y en a qui prient seulement quand ils sont à l'abord du précipice dans leur vie. Et encore, nous pouvons réciter quelques ritournelles, ce qui n'est qu'une caricature de la prière. Ils ne valent du reste guère mieux que le moulin à prière des bouddhistes. La prière véritable dans le sens de demander à Dieu des choses très précises et de les recevoir de sa merveilleuse main, est une expérience totalement inconnue de beaucoup de chrétiens. Et cette déficience dans leur vie spirituelle, explique pourquoi ils ont si peu de joie, si peu de puissance et de fécondité dans leur témoignage. Les disciples demandèrent à Jésus, Ô Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas demandé « Apprends-nous comment il faut formuler des magnifiques paroles qui sont théologiquement impressionnantes, qui en jettent. » Non, 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 pas du tout. Non, non, à prier tout simplement avec son cœur. Oui, mes chers enfants, plutôt mes chers frères et sœurs, voyez-vous, si les peuples de Dieu voulaient s'humilier, hein, c'est là le problème, de sa négligence et de s'adonner tout à nouveau à la prière, cela devrait être possible, car le manque de prière, selon la parole de Dieu, nous donne des preuves formelles que ce manque de prière est considéré comme étant un péché. Au fait, est-il même nécessaire de le prouver ? Nous avons là l'évidence du fait que la Bible le déclare expressément par la bouche de Samuel. 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, où il est dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. » Donc, le Saint-Esprit, qui inspira ces paroles, nous déclare que de cesser de prier est carrément un péché. On le retrouve, cela. D'innombrables passages des Saintes Écritures nous ordonnent même de prier, et même de prier en tout temps. Ça, c'est encore tout autre chose. Nous trouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, cette injonction brève et sans contexte aucun. Priez sans cesse, ce qui veut dire littéralement que le chrétien est appelé à une communion ininterrompue avec Yahvé l'Éternel dans la prière. Et ceci, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est démontré, expliqué dans Saint Luc, chapitre 18, verset 1. Oui, là, qu'est-ce qu'il est dit ? Que Jésus-Christ leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, toujours prier et surtout ne point se relâcher. Luc 18, verset 1. Donc, nous devrions toujours prier et ne jamais abandonner la partie. Tel est le commandement impérieux du Seigneur, ne pas y obéir donc, est considéré comme étant un péché. Dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, nous avons toute l'armure du croyant pour le combat spirituel auquel il est appelé à se... On peut dire à ce passage qui conclut, écoutez bien, faites en tout temps, par l'Esprit Saint, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. N'oubliez jamais de prier pour vos serviteurs, vos servantes, pour les missionnaires. Oui, prions. Nombreux sont les versets de la Bible qui nous engagent à la prière. Et Jésus-Christ avertit ses disciples de veiller et prier. Pourquoi ? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, si Dieu met si souvent l'accent sur cette nécessité primordiale de la prière dans la vie du chrétien, désobéir à un tel ordre, le prendre par exemple à la légère, constitue un grave péché, un signe même de déchéance pour l'enfant de Dieu, pour chacun de nous. Ne pas prier est donc un péché, nous l'avons vu, du fait que cela ouvre la porte à tous les autres péchés. Cela est évident d'après l'exhortation du Seigneur Jésus-Christ dans Saint Marc, chapitre 14, verset 38, où il est dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » L'esprit et souvent bien disposé. Mais la chair, elle est faible. Jésus-Christ nous enseigne à prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La prière est donc le remède par excellence à l'heure de la tentation, le sûr moyen même de triompher carrément du malin. Donc, dans le même ordre d'idées, rappelons-nous que toute l'armure de Dieu qui nous est énumérée dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, n'oubliez jamais cela, Éphésiens 6, versets 10 à 18, grâce à laquelle nous pouvons tenir ferme contre les ruses du diable, et intimement, cela est intimement lié, nous dit-il ce verset, avec le passage suivant, « Faites en tout temps par l'Esprit Saint toutes sortes de prières et de supplications. Donc, veillez à cela avec une entière persévérance. » C'est la prière qui seule peut vraiment vaincre l'ennemi, qui nous permet également de tenir ferme dans le mauvais jour. Un vieux proverbe nous dit que Satan tremble dès qu'il voit le plus faible des saints qui tombe à genoux. Il n'est pas dit dès qu'il voit un orateur célèbre prêcher. Non, non. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêcher, au contraire. Mais là, il y a quelque chose de très précis. Satan tremble dès qu'il voit le plus faible d'entre nous qui tombe à genoux pour prier. Et il peut bien trembler si c'est enfant de Dieu qu'on ait le secret de la prière fervente, directe, persévérante, qui le gardera de la tentation et lui donnera la puissance de triompher du malin. Oui, ou la prière, écoutez bien, ou la prière fera cesser un homme de péché, ou bien ça sera le péché qui le fera cesser de prier. Revoyons un peu cela. Ou la prière fera cesser un homme, une femme de péché, ou bien le péché le fera cesser de prier. Il est donc de toute évidence que la plupart de nos péchés proviennent de notre négligence, non pas de prêcher, notre négligence de la prière. Voyez-vous, pour démontrer que l'absence de prière constitue un péché, nous n'avons qu'à observer les croyants de la Bible. Comme ils savaient bien, eux, prier. Si ceux qui ont glorifié Dieu sur cette terre étaient, on peut dire, des hommes et des femmes de prière, et comment ? Eh bien, on peut dire que nous sommes donc coupables de ne pas suivre tout simplement leur exemple. Ne croyez-vous pas ? Dans Saint Matthieu chapitre 14, verset 13, non, je me trompe, c'est Matthieu 14, verset 23. Le modèle suprême n'est-il pas notre Sauveur lui-même ? Il nous est dit qu'il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Hein ? Et les mères, est-il dit, lui ont apporté leurs enfants pour qu'il leur imposât les mains et qu'il pria pour eux. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 13. Dans le jardin, il a dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Dans bien des passages, il nous est dit expressément que Jésus-Christ se retirera dans le désert même, tout simplement pour prier. Vous pouvez noter les versets suivants, Saint Marc 1, verset 35, chapitre 6, verset 46, Saint Luc, chapitre 5, verset 16, et je crois aussi le chapitre 6, verset 12. Dans les temps bibliques, le temple était, en ce temps-là, littéralement une maison de prière. Et c'est là que les chrétiens ont jeûné et prié, qu'ils ont supplié Dieu avec larmes, oh oui, avec larmes. Et ils restaient parfois toute une nuit en prière. Je me rappelle avoir été, il y a bien des années de cela, régulièrement aux nuits de prière qui avaient eu lieu en ce temps-là, je ne sais pas comme c'est aujourd'hui, à la fraternité chrétienne à Yverdon. Donc, il y avait là, je m'excuse, il y avait là des nuits de prière. Et croyez-moi, c'était bondé de monde. Pas deux ou trois. Incroyable, mais vrai. Il y en a qui venaient un peu de partout, même d'Allemagne, pour prier toute une nuit. Et quand nous comparons notre petite vie et notre service avec des missionnaires tels que Carey, Judson, Hudson Taylor et d'autres, comme nous avons lieu de nous humilier, et comment ? Pour notre péché de négliger, de la négligence à l'égard de la prière. En dehors du fait que le manque de prière ouvre la porte à tous les autres péchés, ça c'est prouvé, je voudrais attirer votre attention sur quelques-uns des tristes résultats d'une telle négligence. Les enfants de Dieu n'obtiennent pas ce qu'ils devraient avoir. Oui, bien des chrétiens sont privés de leur nécessaire du fait qu'ils ne savent pas le demander à Dieu. Et ceci selon l'ordre de la prière dominicale, qui simplement nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ça a l'air tout simple, mais il faut encore que nous le disons avec nos tripes. Beaucoup restent dans l'affliction sans jamais en subir ou en sortir surtout. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas obéi à l'ordre divin. Quelqu'un parmi vous, est-il dit dans Saint Jacques, chapitre, je crois, 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Que doit-il faire ? Simplement se laisser aller, puis pleurnicher ? Non, 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 non. Qu'il prie avec ferveur. De même, bien des malades sont privés de la guérison qu'ils pourraient obtenir en se conformant à l'injonction de prier. D'autres sont dans l'hésitation quant au chemin à suivre. Oui, ils manquent tout simplement de discernement, faute d'avoir prié. Le discernement, la sagesse, ne vient pas automatiquement. Ce n'est pas simplement dire « Papa, je veux une nouvelle voiture ». Non, 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 non. Non, soyons sincères, il faut vraiment avoir une prière de supplication, d'intercession. Et c'est pourquoi il y a des choses qui ne nous sont pas offertes. Selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. Donc, combien d'enfants de Dieu traversent la vie d'ici-bas comme, en quelque sorte, s'ils étaient des orphelins, comme si leur Père Céleste ne se souciait pas du tout d'eux, comme s'ils n'étaient pas capables de prendre soin de tous leurs besoins. Oh oui, quelle triste conception de la vie chrétienne! Israël, du reste, nous a montré l'exemple. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, alors qu'ils auraient pu entrer en possession de la terre promise depuis longtemps, s'ils avaient cru avec tout leur cœur aux promesses divines. Nous devons davantage faire confiance à notre Père Céleste. Du reste, le fameux roi Saül, là il nous est dit dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 13, que Saül est mort parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, envers Yahvé l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea même, c'est le pire de tout, et consulta ceux qui évoquent carrément les morts. Ne faisons jamais cela, même si vous êtes catholique. Il ne consulta point l'Éternel, donc l'Éternel l'a fait mourir et transféra le royaume à David, fils d'Isaïe. Il est donc clairement indiqué que Saül mourut pour avoir consulté un médium au lieu de s'attendre à l'Éternel. D'autre part, nous voyons le roi Ézéchias dans Ésaïe chapitre 38 verset 1 qui était carrément malade à la mort. Ça rigole pas ça. Mais il a obtenu de Dieu une merveilleuse prolongation de vie, et ceci sur une durée de 15 ans, et tout simplement en réponse à son ardente, je dis bien, à son ardente supplication. Ésaïe 38, verset 1. Voyez-vous, quand Dieu avait résolu la destruction d'Israël et qu'il avait offert à Moïse de faire de lui le chef d'une nouvelle nation, Moïse pria et Dieu pardonna à tout son peuple et il ne lui fit pas le mal qu'il avait pensé lui faire. Exode chapitre 32. Et vous pouvez même lire du verset 9 jusqu'au verset 14. Oui, c'est bien aussi en réponse à la prière d'intercession que Abraham a vraiment, à la réponse de ces merveilleuses prières d'intercession de notre grand Abraham, que Lot a pu être sauvé de Sodome, et tout simplement par la prière et le jeûne d'Esther et de ses servantes, de Mardochée et d'autres, que tout le peuple juif a même échappé carrément à la conspiration du cruel Haman. Et là, vous pouvez simplement, quand vous aurez un coup le temps, voir le livre d'Esther, très intéressant, ça vaut la peine. J'en ai des fois les larmes aux yeux quand je lis cela. Ainsi, je suis persuadé, chers amis, que Dieu mettrait fin à bien des guerres et que des milliers d'âmes seraient épargnées si seulement ses enfants à travers le monde apprenaient davantage à prier. Mais c'est bizarre. On néglige cela, ça a l'air trop simpliste, enfantin, peut-être, on peut dire, presque rétro-arriéré. Ainsi, faute de prière, nous manquons tant et tant de bénédictions. Il y a des malades, et oui, qui auraient pu guérir des gens qui meurent, et ceci avant leur temps. Des hommes et des femmes d'affaires qui sont ruinés, qui font faillite. Si seulement ils avaient, et que nous aurions, pour eux aussi, hein, pas penser qu'à nous-mêmes, prier. Et cela aurait pu changer beaucoup de choses. La déchéance spirituelle des églises, le refroidissement de la flamme du réveil, la tiédeur des chrétiens sont dus, pas parce qu'on prie trop, ah non, sont dus à un manque de zèle dans la prière. Il y en a qui sont d'accord de prêcher un beau message, mais parfois, ils ont même pas un minimum de zèle pour que des âmes soient sauvées. Prêcher pour ceux qui sont déjà sauvés, c'est très bien. Il le faut aussi. Mais ce n'est pas le plus important. Il faudrait peut-être davantage penser. Il ne faut pas maintenant tourner ce que je dis à l'envers, hein, et me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faudrait avoir beaucoup plus de zèle en nous, chrétiens, tous les chrétiens, femmes et hommes, pour ceux qui sont perdus. Ça, c'est pas très gentil de notre part. D'innombrables pécheurs ne sont pas sauvés parce que nous n'avons pas prié pour eux. Rien ne peut davantage nous révéler la culpabilité de négliger de prier, comme cette pensée que, faute d'elle, tant de pécheurs courent tout simplement vers où ? Vers le salut ? Surtout pas. Ils courent vers la perdition. Et ça, c'est sérieux. Ça, c'est même très sérieux, chers amis. Il est évident que nul peut être sauvé sans avoir entendu le message de l'Évangile. C'est clair et net. La Bible nous dit : comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, jamais entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Donc la prédication est très importante, mais la prière doit venir à la première place. Si nul, ou si vous voulez, si nul ne part pour annoncer l'Évangile, et si les pécheurs n'ont pas l'occasion de l'entendre, comment seront-ils sauvés ? C'est clair et net. Et d'autre part, on peut dire, il est également vrai que si les missionnaires partent sans être accompagnés des prières des saints, simplement partir, c'est très bien, mais ce n'est pas le tout. Si eux-mêmes ne prient pas, eh bien leur ministère restera sans effet, leur témoignage absolument sans puissance. Il est impossible de désassocier le réveil de la prière d'intercession. Les deux sont intimement liés ensemble. Il est insensé de supposer que quiconque puisse avoir un ministère fructueux pour le salut des âmes sans qu'il soit soutenu par la prière. Combien de précieuses âmes auront passé à côté du salut du fait simplement que personne n'a su les aider? Par quoi ? Par la prière. Donc, nous avons compris que le péché de notre manque de prière manifeste carrément la méchanceté, est-il dit, de nos cœurs. C'est sérieux, cela. Si un homme ou une femme en vient à tuer quelqu'un, cela peut provenir d'une terrible haine préméditée, ou bien encore d'un accès de colère soudain, ou même d'une simple imprudence. Qu'un homme ou une femme tombe en état d'ébriété, c'est le résultat d'un état maladif, d'une passion incontrôlable dont elle est devenue l'esclave, et il est plutôt à plaindre qu'à blâmer. Il peut être dans tous les autres domaines un homme, une femme de cœur, digne de l'affection de ses semblables. Et qu'une personne vienne à succomber à la tentation passionnelle et commettre l'adultère, ce péché, comme tous les autres, a tout simplement sa source dans l'impureté de notre cœur. Mais aucun de ces vices apparents n'est aussi coupable, bien que c'est coupable, mais aussi coupable aux yeux de Dieu, attention, que l'indifférence à son endroit et l'absence totale de prière et de communion avec le Seigneur. Ce péché est donc symptomatique de bien des lacunes dans la vie intérieure. Il nous faut avouer, chers amis, que la plupart d'entre nous ne jouissent pas vraiment de nos rencontres avec le Seigneur comme nous le devrions. Sinon, nous prierions, croyez-moi, davantage. Quand nous avons faim, il nous est bienfaisant de manger, bienfaisant de dormir, surtout quand on a terriblement sommeil. Si nous aimons particulièrement certaines personnes, nous recherchons leur compagnie et passons volontiers de longues heures dans leur société. Sinon que nous prenions un réel plaisir à nous entretenir avec notre Père Céleste, nous trouverions le temps nécessaire pour cela, quitte à le prendre, pourquoi pas, sur nos repas, nos loisirs, notre sommeil, s'il le fallait. Le manque de prière est donc un indice certain que nous ne jouissons pas vraiment de la communion avec Dieu. Aussi, soyons honnêtes, mes chers amis, et sondons nos cœurs dans ce domaine. N'est-ce pas vrai que nous prions le plus souvent dans un certain sentiment de devoir légal? C'est un devoir. Il y a quelques jours, un jeune homme me faisait la confession que jusqu'à présent, il n'avait prié que très péniblement avec ce sentiment d'une contrainte, d'une tâche qu'il fallait vraiment accomplir, coûte que coûte. Mais depuis qu'il avait entendu ces CD, ces messages, ces études sur la prière, il avait totalement changé d'attitude et la prière était devenue pour lui une source de joie. Ça change tout. Je suis porté à croire que pour des milliers de chrétiens, la prière est plutôt un fardeau qu'une satisfaction. Et ça, c'est triste. Nous prions parce qu'il faut bien le faire si on est chrétien. Mais sans éprouver le sentiment d'être à l'aise avec Dieu, être heureux de jouir de sa communion sainte et bénie. N'est-ce pas là, mes chers amis, il me semble, un terrible péché d'omission? Savez-vous quelle fut la complainte du prophète Ésaïe, citée par le Seigneur Jésus-Christ à ceux qu'il interpelle en les appelant carrément d'hypocrites? Il n'y allait pas de la main morte, hein? Il les appelle carrément d'hypocrites. Et ceci dans Saint Matthieu chapitre 15, verset 8. Jésus-Christ, à ceux qu'il interpelle, il ne les flatte, il ne leur flatte pas les oreilles. Et on peut dire qu'il a dit, ce peuple m'honore, en effet, mais seulement des lèvres. Et son cœur est très éloigné de moi. Et cela peut bien aussi s'appliquer, je crois, à la chrétienté contemporaine d'aujourd'hui. Si nos cœurs, hein, ne prennent aucune part à nos prières, hein, si elles ne sont que des paroles vides de sens qui viennent de nos lèvres, si nous ne prenons aucun plaisir profond à nous approcher de Dieu, combien grande est alors, je vous le demande, la perversité de nos cœurs? Sans nul doute, le peu de bénédictions résultant de nos prières s'explique tout simplement par contraste d'après la promesse bénie de Jérémie au chapitre 29, versets 12 et 13, où il est dit « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si quoi ? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Sachez, chers amis, que Dieu est beaucoup plus disposé à nous bénir que nous le sommes à chercher sa face. Si seulement nous voulions nous tourner vers lui de tout notre cœur. Avez-vous vraiment sondé votre cœur pour découvrir si oui ou non vous jouissez de la présence de Dieu? Si la prière était pour nous une source de délices, n'y passerions-nous pas beaucoup plus de temps chaque jour? Bien des fils et des filles, tout en ayant une certaine affection pour leurs parents, n'ont parfois rien en commun avec eux et jouissent infiniment plus de la compagnie de leurs amis dans les plaisirs mondains. Et bien des époux, qui pourtant aiment leurs femmes, les trouvent un peu terre-à-terre, un peu rétro aussi, et se plaisent davantage dans la compagnie de personnes plus cultivées apparemment. Il est désolant qu'il en soit de même dans nos rapports avec Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, évidemment, nous devrions aimer Dieu. Mais cet amour est encore si faible chez beaucoup de croyants, et comment ? Qu'ils ne trouvent que bien peu de temps pour rechercher sa communion, pour lui demander les bénédictions qu'il tient pourtant en réserve pour eux. Et n'oubliez pas que le manque de prière trahit notre incrédulité, non ? Si, selon Hébreux chapitre 11, verset 6, où il est dit « sans la foi », il est impossible de plaire à Dieu. Et selon Romains chapitre 10, verset 14, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il est donc évident que les inconvertis ne pourront crier à Dieu pour être sauvés que s'ils croient en ce Dieu sauveur. La prière chez les pécheurs convaincus est la preuve formelle de sa foi naissante. N'en est-il pas de même pour le chrétien? Comment prierons-nous si nous n'avons pas l'assurance qu'il en vaille vraiment la peine et que la prière soit le moyen de nous attirer la bénédiction divine? Si quand nous sommes malades, nous tournons nos regards instinctivement vers le médecin plutôt que de prier, c'est le signe que nous nous confions davantage dans la science humaine qu'en Dieu. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit d'avoir recours aux médecins, aux chirurgiens, à certains médicaments. Je ne dis pas du tout cela. Mais nous ne devons pas oublier que nous pouvons aussi apporter nos problèmes de notre corps qui se déglingue au Seigneur. Le manque de prière résulte donc de l'incrédulité, laquelle, comme je l'ai déjà dit, constitue le péché dominant de la créature, celui dont nous avons à nous laisser affranchir en ayant les regards tout simplement, toujours et encore, nous devons avoir nos regards sur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi, nous est-il clairement expliqué dans Hébreux chapitre 12 verset 2. Donc, moi personnellement j'ai connu bien des personnes qui affirment avec une très belle assurance leur foi en Dieu et dans la prière qui cependant à l'heure de l'épreuve, d'épreuves parfois très peu sympathiques, comme la maladie, le chômage, etc., avaient toujours recours spontanément aux moyens humains d'abord. À leur disposition, ces moyens sont à notre disposition, bien sûr, plutôt que de confier notre besoin au Seigneur. Encore une fois, c'est pas faux, hein, d'aller au bureau du chômage. Il faut y aller. Mais nous devons aussi prier pour que le Seigneur nous trouve une nouvelle place et que nous n'ayons pas besoin de chômer éternellement. Je ne dis pas ça pour moi, puisque à 84 ans, je pense que c'est fini, tout ce problème, heureusement. Et pour ces sortes de croyants, eh bien, la foi n'est pas toujours une réalité vécue, mais c'est plutôt comme un vague sentiment religieux, j'aime pas beaucoup ce mot, une acceptation mentale de la doctrine chrétienne. Mais la foi véritable et authentique doit nécessairement nous pousser à crier carrément vers Dieu à l'heure du besoin, à attendre de lui l'exaucement de nos supplications. Si nous retranchions de nos prières celles qui sont prononcées pour être entendues des hommes ou par simple devoir religieux, quelle serait la proportion de la foi réelle en un Dieu qui écoute et qui exauce la prière de ses enfants? Ô Dieu, pardonne-nous à tous ce péché de l'incrédulité. N'ayons pas peur de dire les mots. Donc, notre manque de prière révèle aussi, entre autres, notre paresse spirituelle. La prière est un travail positif. Elle exige de la concentration, de la persévérance et aussi de la volonté. Pour devenir un homme ou une femme de prière, il s'agit de surmonter bien des obstacles, bien des tentations ou découragements. Satan excelle à nous détourner de la prière en nous tenant occupés, très occupés à mille autres choses, en nous poussant au découragement et à l'incrédulité. Ainsi, la prière effective exige carrément un réel effort. C'est un travail de tout notre être. Et comment ? Oui, quand Jésus-Christ pria dans le jardin, il nous est dit, dans Saint Luc chapitre 22, verset 44, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et même sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Bien des saints de Dieu ont connu, dans une certaine mesure, l'intensité de ce combat de la prière, de sorte qu'ils en sortaient tout couverts de sueur. Brainerd, un célèbre chrétien, était prosterné dans la neige, tandis qu'il luttait dans la prière pour les âmes, ne sentait même pas le froid, tellement qu'il était absorbé par la prière envers les âmes qui se perdaient, pour qu'ils soient sauvés. Ainsi, certains chrétiens ont appris à lutter dans la prière, comme Épaphras, c'est ce merveilleux homme de Dieu dont l'apôtre Paul pouvait dire « Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières pour les saints de Colosse. » Colossiens chapitre 4, verset 12. Ce mot « combattre », comme le combat intense livré par Jacob à Peniel, correspond au terme grec « agonizomai ». D'où notre mot « agonie ». Cette lutte dans la prière peut donc aller parfois jusqu'à l'agonie. Oui, mes chers amis, c'est un travail réel, intense, que celui de la prière. Si nous prions si peu et si mal, c'est l'indice de notre paresse spirituelle. Notre négligence de la prière montre donc que Dieu n'a pas la toute première place dans nos affections et nos intérêts, et que nous laissons aisément d'autres choses prendre toute cette place. Si nous ne prions pas, c'est que nous avons certaines idoles parfois dans notre cœur. Et oui, nous passons plus de temps à lire les journaux, les magazines, la télévision, l'internet et tous les gadgets qui vont avec, parce que la pratique et tout cela nous intéresse davantage. Les choses modernes, actuelles qui nous sont offertes par Google et tout le reste, hein. Donc Satan est drôlement rusé, il nous égare, mais nous ne le voyons même pas, et nous en passons donc par tous les bavardages avec nos semblables, parce que tout simplement, ces gens qui nous entourent nous procurent le plus souvent des plaisirs, beaucoup plus de plaisirs, qu'un entretien avec notre Père Céleste. Et ça, c'est grave, il faut faire attention à cela. Souvenons-nous à l'exemple des apôtres qui pouvaient dire « Nous, nous continuerons, oui, à nous appliquer à la prière et au ministère de la Sainte Parole, plaçant ainsi la prière, vous l'avez compris, au premier rang, et la prédication au second. » Je crains fort que nous autres pasteurs n'ayons plus à cœur la perfection de nos sermons, que nous sommes beaucoup plus intéressés à former des magnifiques sermons qui vont en quelque chose faire que les gens, en sortant de l'église, vont nous féliciter, que du résultat dans le salut des pécheurs, pour le salut des pécheurs, et que souvent nous sommes beaucoup plus anxieux de bien parler, de formuler des belles phrases pour les hommes et les femmes qui nous écoutent, que simplement de nous retirer humblement pour prier. Bien des chrétiens peuvent passer des heures chaque jour à leur dada, leur occupation favorite, qui ont l'air toutes innocentes, qu'elles ne voient pas le danger, la ruse de l'ennemi, mais cela toujours au détriment de la vie de prière, ce qui indique un manque d'attrait vers les choses divines, et surtout la communion avec Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Le manque de prière n'est-il pas toujours, chers amis, un indice de notre attachement plutôt aux choses d'en bas, au détriment, toujours bien sûr, d'un intérêt vital dans l'œuvre du salut des âmes, donc dans la recherche du royaume de Dieu. Certains seront tentés de me répondre qu'ils sont bien trop occupés, qu'ils ont trop de travail urgent, oh là là, indispensable à faire pour consacrer tant de leur temps à la prière. Mais nous devrions prier sans cesse, nous dit la parole de Dieu. Cependant, il est indispensable de consacrer carrément des moments spéciaux dans la journée pour nous adonner à la prière sans distraction, en laissant de côté tout le reste. Ne dites pas, par exemple, que vous n'avez pas le temps, que c'est impossible, En lisant les épîtres de l'apôtre Paul, nous voyons qu'il priait sans cesse chaque jour pour les nouveaux convertis. C'était très important. Jésus-Christ passait de longues heures, même des nuits entières à prier. Martin Luther, lui, il nous dit qu'il avait tant de travail pour Dieu qu'il n'y serait jamais parvenu sans consacrer 3 heures chaque jour à la prière. Et pour ce géant de la foi, la prière était un combat constant, était carrément une lutte réelle avec les puissances des ténèbres. Satan était si près de lui dans ce combat de la prière qu'un jour, il en avait vraiment marre, il en avait assez, et il lui a envoyé son encrier à la tête. Donc, la marque indélébile qu'il laissa sur la muraille, elle demeure encore comme un signe visible de la réalité de la prière pour ce grand réformateur. Tous les grands hommes de Dieu, dont le ministère a été le plus puissant, étaient des hommes de prière, des hommes capables tels que Hudson Taylor, Charles Studd, Moody et beaucoup d'autres, de se lever régulièrement à 3 ou 4 heures du matin pour consacrer à la prière les toutes premières heures de la journée. Oui, toutes nos excuses, chers frères et sœurs, ne sont, je crois, que des alibis. Le fait est que si nous consacrons si peu de temps à la prière, c'est que nous ne la considérons pas si importante que les autres choses. Nous préférons le sommeil à la prière. Nous considérons comme plus urgent de prendre un bon repas que de nous livrer à la prière. Nous plaçons notre service, notre prédication surtout, avant le service suprême de la prière. Notre négligence de la prière prouve tout simplement que bien d'autres intérêts ont usurpé sa place au premier plan de nos préoccupations. Chers amis, nous allons voir maintenant comment nous pouvons carrément triompher de ce fameux péché. Je me sens moi-même douloureusement conscient de mes lacunes dans ce domaine, croyez-moi. Mais je voudrais cependant vous suggérer le moyen de triompher des obstacles à la prière. Mettez résolument à part les premiers moments de chaque journée pour la méditation de la parole et de la prière. Le plus tôt sera le mieux. Ayez votre culte personnel avant l'heure du petit déjeuner. Un grand missionnaire avait pour motto « Pas de Bible ». Pas de petit déjeuner. S'il ne pouvait pas trouver le temps de lire la parole et de prier avant le petit déjeuner, il préférait se passer de manger. Chers frères et sœurs, un tel mot d'ordre devrait nous humilier. Oui, nous qui si souvent faisons passer notre estomac avant Dieu, apprenons. Pourquoi pas ? Hein? Oui, je vous le demande, apprenons à mettre toujours la prière au tout premier plan dans notre vie, dans ma vie, avant toute autre chose. Et cela impliquera évidemment que nous devrons nous lever un peu plus tôt, laisser de côté bien des choses de moindre importance qui nous paraissent malheureusement surimportantes. Mais ceux qui me cherchent me trouvent, a dit le Seigneur. Notez Proverbe chapitre 8, verset 17. Ceux qui me cherchent vont me trouver. Prenez l'habitude de prier au fond pour un sujet, mais vraiment à fond, je veux dire. Prenez donc l'habitude, je répète, de prier à fond de tout votre cœur pour un sujet particulier. nous ne pouvons pas toujours parvenir à l'exaucement d'une requête en une seule fois, mais nous pouvons persévérer, intercéder à la tenir devant Dieu, jour après jour, et être dans la paix à ce sujet, sachant qu'il a entendu notre prière et qu'il l'exaucera en son temps. Ou bien, vous pouvez aussi prier dans une certaine direction jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous révèle un changement d'attitude dans la prière pour vous conformer au plan divin. Cette manière de prier vous affranchira de toutes vos anxiétés, de tous vos soucis, car vous apprendrez à les déposer, oui, aux pieds de notre Sauveur et Jésus-Christ, jour après jour. Prenez l'habitude de présenter donc à Dieu le Père vos fardeaux, et ceci à mesure qu'il se présente. Attendez pas dans 3 semaines. Autrefois, j'avais de la peine à me souvenir des nombreux sujets de prière qui m'étaient présentés tout au long de la journée. Si je les laissais s'accumuler jusqu'à l'heure de la prière du soir, mais ça, c'était pas la bonne solution, car j'en oubliais la moitié, même plus. Mais à présent, j'ai compris une chose. J'apporte toutes ces choses, tous ces sujets, je les apporte au Seigneur, et ceci, écoutez bien, au fur et à mesure, et cela m'apporte la bénédiction d'une communion qui sera constante avec mon Dieu. Bien sûr, je ne veux pas dire par là que celle et celui qui est derrière son internet, son computer, du matin au soir, et arrive mort de fatigue, après encore peut-être plus d'une heure avec le métro pour rentrer. Ça, le Seigneur le sait. Il le comprend. Il ne vous en voudra pas que vous n'avez plus tellement de force pour encore prier longtemps. Il faut d'abord aussi, et cela n'est pas interdit, ravitailler un peu votre corps. Mais, à la place de peut-être de continuer de voir le feuilleton suivant, pourquoi ne pas se mettre un moment à genoux et prier ? Chers amis, abandonnez toute formalité et que votre prière soit un simple entretien, comme un enfant avec son papa, tout le long du jour. Tout chrétien devrait pouvoir ainsi s'adresser au Seigneur à tout moment et lui dire « Seigneur, là j'ai eu tort, je n'aurais pas dû faire cela. » Oh, rassurez-vous, je le dis pour moi, tout d'abord. Hein. Pardonne-moi, ou encore « Seigneur, montre-moi ce que je dois répondre à cette personne. » Que je lui réponds pas n'importe quoi, que chaque détail de votre vie devienne un sujet de prière. Priez pour toutes les personnes qui traversent votre route et prenez l'habitude de parler avec Dieu aussi librement et simplement qu'un enfant avec sa mère ou une femme bien aimante, merveilleuse, avec son mari. Il y a des gens qui prient avec tout le formalisme, le langage cérémonieux qui évoque l'idée d'une présentation officielle chez les grands de ce monde. Prenez au sérieux les exemples et l'enseignement de la Bible au sujet de la prière. Jacob, il a prié toute une nuit entière. Et le Seigneur Jésus-Christ a passé bien des nuits dans la communion de son Père céleste, de son Père bien-aimé. Pourquoi n'en ferions-nous pas, chers amis, autant pour parvenir à la plénitude de la vie de prière? Je n'oublierai jamais les expériences bénies qui furent mon partage lorsque seul ou dans la communion des frères et sœurs, j'ai passé les veilles de la nuit à m'attendre au Seigneur. Nous devrions avoir honte, oh oui, de ressembler si peu dans notre vie de prière aux serviteurs de Dieu du passé. Oui, par la grâce de Dieu, chers frères et sœurs, efforçons-nous d'entrer nous aussi dans ces expériences bénies. La Bible nous donne bien des exemples de saints hommes et de saintes femmes de Dieu qui jeûnèrent et prièrent pour obtenir ces bénédictions pour eux-mêmes et surtout pour leur peuple. Par exemple, Esdras et ses compagnons, l'apôtre Paul, Barnabas, et combien d'autres surent carrément en jeûné et prié. Vous êtes-vous jamais privé d'un repas ou passé une journée entière dans le jeûne tandis que vous étiez absorbé en esprit par la recherche intense de la bénédiction d'en haut? Si les pharisiens, eux, faisaient tout de même du jeûne un devoir légal, c'est sérieux, et même en quelque sorte un mérite, pourquoi les chrétiens ne pourraient-ils pas, je vous le demande, pratiquer cela du fait qu'ils portent le fardeau des âmes et aspirent à la plénitude de l'Esprit Saint? Daniel, ce merveilleux prophète, sans compter Joseph et d'autres, a passé 3 semaines, nous dit-il, à ne manger aucune nourriture agréable. Daniel chapitre 10, versets 2 et 3. Et ne devrions-nous pas, chers amis, ne devrions-nous pas aussi avoir certaines périodes d'humiliation à la place de nous gargariser de notre orgueil, de confesser nos péchés, de nous attendre à Dieu pendant lesquels nous ne ferions que le strict nécessaire pour la vie matérielle. Et ceci jusqu'à ce que certaines victoires puissent être remportées, certaines bénédictions puissent obtenir la réponse, la victoire d'en haut. J'ai connu des foyers où pour un certain temps, les lits étaient faits très sommairement, vous pouvez me croire. Les repas extrêmement simplifiés, tandis que la maîtresse de maison se sentait appelée à consacrer son temps à la prière. Nous trouvons les hommes de la Bible et ces femmes merveilleuses également décrites dans la Bible en diverses positions pour la prière. Les uns étaient à genoux, d'autres étaient prosternés face contre terre authentique, d'autres debout comme Salomon à la dédicace du temple et il avait les mains levées vers le ciel. C'est pas défendu. On peut lever les mains en victoire et aussi pour adorer avec des chants, des cantiques, adorer vers le ciel. Jésus-Christ a parfois prié debout. Mais par contre, dans le jardin de Gethsémané, il est tombé à genoux, totalement prosterné dans son agonie. J'en conclus que peu importe la forme extérieure, prions, chers amis, dans toutes les positions où nous nous trouvons. Cependant, dans les heures d'intense combat dans la prière, il est tout à fait normal de nous prosterner devant Dieu et de nous attendre à lui humblement. Par exemple, David. Là, lisez, notez le psaume, je crois, chapitre 4, verset 5. David, quand vous vous réveillez la nuit, comme David, il a parlé en son cœur, sur sa couche. Donc, vous pouvez très bien être pas très bien dans votre corps, être affaibli, être peut-être passagèrement malade, et vous vous trouvez sur votre lit. Mais là, à la place de ruminer des choses qui ne vont pas vous aider beaucoup, pourquoi pas prier ? Prier, intercéder, supplier. Comme David, comme lui, prions le matin, est-il dit, prions à midi et prions le soir. Et vous pouvez vérifier le psaume 55, verset 17. Nous allons terminer par la prière. Mes chers amis, n'oubliez jamais, apprenons à prier. Mes chers frères et sœurs, oui, à prier comme les femmes et les hommes de la Bible. N'ayons pas peur de pleurer, de jeûner devant Dieu comme eux l'ont fait. Faisons de la prière la plus grande affaire de notre vie. Oh oui, la plus grande source de joie et la plus incessante de toutes nos activités. Nous allons maintenant terminer tout simplement par la prière. Prions ensemble avec tout notre cœur, humblement. Ô Jésus-Christ, oui, tu es le Sauveur du monde. Sois béni. Ô Jésus-Christ, tu es le Seigneur du monde. Sois béni. Ô Jésus-Christ, cœur de l'histoire universelle ici-bas, sois béni. Ô Jésus-Christ, signalement glorieux de notre planète parmi les astres qui fourmillent au firmament, sois béni. Ô Jésus-Christ, Fils de l'homme et Fils de Dieu, seul nom par lequel nous puissions être sauvés, oui, par Jésus-Christ le crucifié, sois béni. Ô Jésus-Christ, sois glorifié. Ô Jésus-Christ, cèpe spirituel dont la sève nourrit, régénère et transfigure nos âmes, sois béni. Ô oui, Jésus-Christ, dont la présence réelle s'affirme dès que deux ou trois sont réunis en ton saint nom, sois béni. Ô Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, sois béni. Oui, sois béni et sois éternellement béni. Amen. Amen. Chers amis, encore merci pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Et croyez-moi, la série sur la prière, à mon avis, sincèrement, c'est pour moi. Ça implique seulement ce que je pense avec mon cœur. C'est la série la plus importante que je n'ai jamais faite. La plus importante. Et c'est pour cela, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que c'est du temps perdu. Ne pensez pas non plus que c'est indigne de vous. De temps en temps, de réécouter une de ces études. Et encore, merci pour votre intérêt. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous accompagne. Et à bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir et merci.